c'est bon. Je fais grand rien.
Radio Galère, 88.4.
Hello.
Salut à tous.
Salut Stéphane. Salut Lisa. Jusqu'à 19h, la parole est informative. Non, sur les ondes de Radio Galère, 04 91 08 28 10. Si vous voulez intervenir, intervenez. On vous prend. Enfin, moi, je vous prends sans filtration aucune. Ben aujourd'hui, nous sommes le jeudi 12 décembre 2024. Aujourd'hui, ont eu lieu ce matin les plaidoiries de l'accusation.
En fait, les réquisitoires des procureurs.
C'est pas encore les juges.
Non. C'est pas les juges, non.
C'est les demandes de peine et c'est réjouissant.
C'est les accusés. Enfin voilà. Donc il y a. On a pas mal d'infos là-dessus. Isabelle, tu y étais ?
Oui.
Alors.
Je veux dire que pour une fois, en tout cas, l'exercice de la justice a été vraiment très bien rendu.
Oula.
Je salue ce que j'ai vu aujourd'hui avec les réquisitoires des deux procureurs. Et notamment le procureur de la République, qui a dit qu'il s'est exclamé toutes ces audiences ont été faites dans le respect, mais surtout dans la profondeur des enquêtes qui ont révélé toute la responsabilité, les responsabilités de tous les accusés, qui ont tous pris des peines. Il a commencé par dire qu'il était rare qu'un procureur se réjouisse d'autant de condamnation dans la société civile d'ailleurs, qu'il était effaré de l'autocensure des propriétaires qu'il a qualifié d'indélicats, mais qui pour lui devront être tous redressés. Il commence son réquisitoire comme ça, assez fortement, et il déclare qu'il n'y aura aucune négociation possible, car ici il s'agit d'inverser le rapport entre le fort et le faible et de redonner la parole aux sans voix. Donc un début sur les chapeaux de roue avec les deux procureurs et ensuite un réquisitoire en règle, parfois un peu traînant sur les erreurs structurelles, enfin les défaillances structurelles, comme par exemple cette volonté de ralentir toute forme de travaux, de n'écouter aucune alerte. Et selon, en tout cas, ce j'ai entendu aujourd'hui et dans les jours précédents, il y a eu une réelle volonté d'organiser l'incompétence et l'ignorance des problèmes de ces trois immeubles et d'ignorer complètement la vie des gens qui s'y trouvaient. Donc, pour l'instant, on est plutôt du côté des victimes et il y a réparation.
Alors, peut-être qu'on verra ça au fur et à mesure. Hein.
Oui, parce que pour l'instant, enfin, on parle quand même des réquisitions d'un procureur. C'est pas du tout une condamnation. Mais en dehors de ça, il faudra voir si les responsabilités aussi de la mairie seront à un moment donné portées. Il faudra voir si...
Elles le sont sous la personne de Ruas, évidemment, mais elles ne le sont pas assez, en tout cas, à mon avis. Pour moi. Donc effectivement, la mairie s'en sort, mais il y a d'autres témoignages que je vous rapporterai de gens qui ont travaillé sous la tutelle, enfin dans les organes qui étaient alloués aux immeubles en péril et à la sécurité des citoyens et qui disent tous haut et fort que le système de la godiniste et repris peut-être par Monsieur Payan en quelque sorte est un système qui a causé qui est le responsable en fait à la base du reste de ces catastrophes et c'est un système dont la ville est responsable.
Alors, y a, je crois qu'il y a Primitiville, hein, donc qui est sur son Facebook, qui a publié les réquisitions. Je ne sais pas si vous voulez les lire.
Je veux que tu les lises. Ouais.
Tu veux dire pour les peines?
Oui, alors en tout cas, c'est ce qu'il y a sur le Facebook de Primitivi.
Moi, je les ai, mais tu peux y aller, vas-y, amuse-toi.
Alors, donc il précise, attention, réquisition finie, plaidoirie des assurances bof, réquisition de peine, attention, verdict au printemps. Donc on n'aura pas de résultat avant le printemps,
ouais.
Puis sans doute appel, puis peut-être cassation. Hein. Donc on n'est pas du tout encore...
Ça va dépendre du juge à l'heure actuelle qui va décider s'il y aura possibilité de cassation ou pas. Et donc il peut aussi demander, c'est ce qu'on m'a dit, l'exécution immédiate des sentences.
D'accord, donc on va faire la liste un petit peu, là, donc c'est par personne. Hein. Oui. Donc pour Carta, expert qui est venu la veille et a dit aux habitants qu'ils pouvaient rentrer chez eux. Et est parti le lendemain matin à Copenhague et est resté là-bas pendant toute la semaine suivant l'effondrement. 3 ans, dont un de sursis, 45 000 euros, interdiction définitive de pratiquer des expertises. Pour Ruas, donc c'est le directeur du service Habitat de la mairie, hein, système Godin, 3 ans, 45 000 euros, interdiction à vie de toute activité sur la sécurité des personnes.
Il y a des sursis avec ça qui sont... d'une année à peu près, des possibilités de sursis.
Pour Ruyas ?
Oui, et même Carta, mais en fait...
Là, Carta, il y a marqué, oui, Carta, c'est 3 ans, dont 1 avec sursis.
Voilà, et...
Ruyas, moi j'ai 3 ans.
Et interdiction de... Mais en fait, c'est quand même une accusation pour homicide involontaire, et c'est très grave. Donc, et c'est un des architectes de toute la du système en général,
en tout cas,
des immeubles en péril. On me l'a bien expliqué, Carta, il est partout.
Alors, Carta, il est partout. Ok, Carta, il est partout. Ceci dit, il y en a beaucoup qui sont absents aussi dans le... Alors, il faut quand même rappeler qu'on est parti sur, au départ, 4 malheureux accusés. Là, on est à 16.
Donc enfin, là, on n'est que deux pour l'instant, il y a encore la liste.
On peut parler de Carta.
Je fais la liste ou vous voulez faire...
Si on tu veux, sur quand Carta. Tu en parles, on peut discuter de ce D'accord. que juste j'ai entendu. Ouais, ouais.
Donc sur Carta, donc là, il y a Carta et Ruas pour l'instant.
Oui, qui sont importants parce que c'est, la ville, l'autre aussi. En fait, ce sont peut-être des fusibles, mais des fusibles importants qui continuaient à agir, en fait.
Isabelle, excuse-moi, Carta, ce n'est pas la ville, c'est un expert auprès
du
tribunal.
Oui, mais c'est lui qui est embauché par les services de la ville pour à peu près toutes les évaluations. Mais, et le procureur aurait a dit de lui qu'il n'a pas du tout cherché toutes les infos qui étaient nécessaires pour lui donner. Et il était absolument en mesure de comprendre si seulement il s'était déplacé au 63 et au 67 et qu'il n'y a pas eu, selon le procureur, négligence. Il y a eu littéralement un manquement professionnel absolu de cet expert qui n'a pas daigné, parce qu'il était pressé, se déplacer et aller vérifier les immeubles adjacents au 65.
Mais je crois que son excuse était de dire qu'il avait la tête ailleurs, il avait la tête aux vacances le jour d'avant, et que du coup, c'est pour ça qu'il ne l'a pas fait.
Oui, mais il y a aussi l'expert. Attends, je crois bien que c'est Carta aussi qui était l'expert.
Il y a eu
3 ans pour expertiser le 63. Donc le bâti qui appartenait à la mairie, à
Marseille Habitat.
À Marseille Habitat, le 63, qui a mis 3 ans à expertiser l'état du bâti et les travaux à réaliser, et qui de ces 3 années d'expertise n'est pas allé une seule fois dans la cave.
Ouais.
Voilà, c'est ça.
Voilà.
Alors d'où
oui,
toujours...
c'est pas juste du jour au lendemain Copenhague,
c'est
les vacances.
Pas aller. Non, c'est non. Bien pire que ça. C'est genre il a déclaré. Enfin, on y était ensemble.
Ouais, ouais.
Il est même pas descendu dans la cave pour voir l'état du truc parce qu'on lui avait dit. Mais on a refait le plancher du rez-de-chaussée. Alors ça va.
Oui, alors c'est ça. C'est d'où l'idée, selon les procureurs, d'une réelle organisation de l'inertie. et du ne rien faire le plus possible. Organisé, y compris par le syndic de l'immeuble, les propriétaires, mais on en parlera. Je te laisse continuer, Stéphane, avec le talus.
Bah, après, donc, on a eu Ruas. Là, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur Ruas.
Oui. Alors, lui...
Donc, on a 3 ans, 45 000 euros, interdiction à vie de toute activité sur la sécurité des personnes.
Ruas, alors, dit aujourd'hui, ne savait même pas si les propriétaires étaient défaillants. C'est ce qu'il a lui-même déclaré dans le procès. Ruas,
qui est quand même directeur du service Habitat. Hein.
Voilà, et aussi en charge des immeubles en péril et de la sécurité des citoyens, avait organisé un système extrêmement loose de techniciens qui allaient voir les immeubles en péril, mais de façon extrêmement légère, paraît-il. Les signalements entre 2014 et 2018 sont devenus très faibles, même si 40 000 logements avaient été signalés déjà. Il y a présomption de, selon les procureurs et certaines associations observatrices du terrain, présomption d'une réelle incompétence de la part de Ruas, qui aurait été... mis en place à cet échelon-là par la mairie godiniste pour exactement rester inerte, passer outre les alertes, organiser l'inertie carrément de tout un système qui ne devait pas bouger et qui devait rester tel qu'il était, c'est-à-dire en état d'effondrement. Et surtout quand il y a eu les alertes de 2019 pour les délogés, m'a-t-on expliqué. Là, il y a eu un dépassement, un affolement total et un dépassement des services parce que effectivement, là, c'était l'affolement et l'effondrement, en fait. Et que Ruas n'était pas à la mesure ni à la hauteur de ce... Du degré de désorganisation dans lequel tout le système a plongé à partir des effondrements. Mais il aurait été mis là pour cela. Il aurait même... C'est lui qui aurait probablement tué les 6 millions d'euros qui auraient fait partie d'un plan de réhabilitation de l'habitat indigne et qui n'aurait pas passé l'information à ses services, ni aux architectes, ni aux agents.
Alors, on a en fait...
Vraiment un coupable. Quoi.
Je peux te le remettre, Manu, de Un Centre-Ville pour tous. Ah, le son, vous ne m'entendez pas, hein, c'est ça. Je disais, Manu, de Un Centre-Ville pour tous, nous en parlait dans l'extrait que j'avais déjà commencé à mettre la semaine dernière. Ah, peut-être qu'on peut recommencer. Vas-y. Avec lui.
Oui.
On les finira après
parce okay. que tu vois faisons ça revient ouais, ouais. Ça, parce que lui en fait il parle
on met
de...
en situation
voilà alors
qui est intervenu au 65 hein, 63 c'est Marseille Habitat 65 oui. C'est une copro
donc Carta c'est 65 pardon c'est, j'ai fait une erreur
Moglio qui est en train d'être démêlé par la justice et on verra quelle est la responsabilité précise de cet expert là mais effectivement il y a eu des manquements assez flagrants sur la prise en charge de l'expertise. Bon. Donc là, on est en 2014, on a un portrait en fait du quartier, ouais. et par ailleurs, dans ce même temps, la ville se dote d'un outil et d'un budget pour justement intervenir en amont et de façon beaucoup plus précise avec un bureau d'études qu'elle va missionner dans le cadre d'un marché public. Hein. Pour intervenir sur les immeubles et faire des diagnostics d'immeubles. Bon.
Qui s'appelle comment ce nom ?
Territoire et Habitat. Bon. Et avec un budget de 6 500 000 euros, ce qui est en fait pas beaucoup, mais qui est déjà un point de départ. Et on se dit, bon, intéressant, il y a ce budget-là qui pourrait permettre, en fait, lorsqu'il y a des périls et lorsque les propriétaires sont défaillants, parce qu'un arrêté de péril préconise des travaux et qu'il y a un délai pour les faire et que lorsque les propriétaires ne font pas, il y a une loi qui permet à la municipalité de se substituer en fait aux propriétaires, ce qu'on appelle les travaux d'office. Bon, et donc il y a cette ligne budgétaire qui est prévue pour à la fois permettre de faire du diagnostic structurel sur des logements, d'accompagner juridiquement la procédure de péril et éventuellement de réaliser les travaux d'office. Et en fait, ben cet outil-là, il est pas actionné. C'est-à-dire que le service en question... le service de prévention et gestion des risques, n'a pas connaissance du budget en fait qui est alloué pour intervenir, parce que pas d'encadrement, parce que un adjoint, Julien Ruas, qui semble complètement désintéressé par la question et voilà, qui n'informe pas en fait ses collaborateurs et ses équipes de l'existence de cet outil-là, ben en fait l'outil n'est pas utilisé. Il est utilisé à 5% en fait du montant. Il y a 300 000 euros qui est utilisé. Donc est-ce une catastrophe.
Est-ce que c'est délibéré le fait de ne pas informer de ce montant-là et où est passé l'argent?
Alors l'argent, c'est toujours pareil, hein. L'argent, c'est des enveloppes qui sont fléchées sur un outil, il va passer ailleurs, il va être utilisé autrement, on ne sait pas. Ça, personne ne sait, ça revient dans le budget municipal. Ça fait partie d'une enveloppe qui est fléchée sur un certain type d'action qui va...
Voilà, ça c'était la pause que j'avais calée, je crois. Oui, voilà, ça c'est la pause que j'avais calée pour qu'on passe une musique. Alors du coup, qu'est-ce qu'on met comme musique? On avait dit. Attends, tu sais quoi? On va mettre Brigitte pour commencer. Juste. Oui. Pas Bardot, évidemment. Zut. Et zut, je trouve pas le. Voilà, c'est normal. Alors, ça dit quoi? C'est long, hein. T'as l'impression que de nos jours, on devient de plus en plus impatient avec Internet. Dire qu'avant, il y avait des modems qui faisaient... Mais voilà. Ben non. La 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 la. Qu'est-ce qu'il y a?
T'as pas entendu un truc bizarre?
Si.
Qu'est-ce que c'est?
C'est le gaz. C'est le gaz dans l'appartement en dessous. Des fois il y a des fuites, alors ça s'accumule. Puis s'il y a une étincelle, ça explose. C'est normal. Et qui dit explosion, dit détonation. D'où le bruit que t'as entendu tout à l'heure, voilà. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la.
Dis donc.
La 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 la.
Tu sens pas le brûlé?
Ah ouais? C'est normal, je t'ai expliqué. Il y a eu une explosion.
Oui.
Et l'agitation moléculaire due à cette explosion...
La quoi?
L'agitation moléculaire.
Ah ouais.
Provoque une élévation thermique,
ouais,
suffisante pour enflammer les matières environnantes.
Ouais, ouais.
C'est alors ce qu'on appelle la combustion. C'est normal.
Ah.
Tu comprends?
Ouais, ouais.
La 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 la.
Mais alors...
la la. La la la
la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
Qu'est-ce que tu voulais? La 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 la.
Non, je voulais savoir. Tout l'immeuble il est en train de brûler, c'est bien ça?
Ben oui, écoute. Les matières qui ont servi à la construction de cet immeuble sont très fragiles, tu comprends?
Oui.
C'est normal parce que de toute façon, il n'y a que des familles d'ouvriers et des étrangers et quelques improductifs.
Ouais.
Alors le feu s'empare très facilement des matières.
Ouais.
Ça se propage. Nous sommes donc en présence d'un incendie.
Ah, un
c'est
incendie.
Normal.
Ouais, ouais, ouais.
Ouais. La 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 la. La 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 la. Qu'est-ce qu'il y a encore?
Tu sens pas comme si on commençait à tomber là un peu?
Écoute, essaie de comprendre, c'est très simple.
Oui.
Tu te souviens la combustion?
Ouais.
La destruction de l'immeuble par les flammes?
Oui.
Bon, ça veut dire qu'en dessous, les murs et les étages ont disparu.
et que nous ne sommes plus soutenus par rien.
Ouais.
Or, une chose qui n'est plus soutenue par rien tombe. C'est ce qu'on appelle la pesanteur, c'est normal. La 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 la.
Mais alors, on va tomber.
La la la.
Mais oui. Du 15e étage.
C'est tout à fait normal. C'est l'attraction terrestre. La.
D'accord.
La 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 la
la la la la. La 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 la
la la la la la la la la. Quoi? Quoi?
Pardon, mais je pense à un truc. On va pas mourir dans une minute.
Brigitte, tu es fatigante.
Pardon.
Non. On est en train de tomber.
Oui.
Or, tout corps tombe à une vitesse définie.
Oui.
Et en arrivant au sol, il subit une décélération violente qui amène la rupture de ses différents composants. Par exemple, les membres se séparent du tronc, le cerveau jaillit hors de la boîte crânienne, etc. Dans ces conditions de déconnexion, il est évident que le phénomène de la vie ne peut pas se maintenir, c'est normal. Tu comprends ?
Ouais.
Et voilà, c'est normal, hein ?
Hein de retour sur Radio Galère, ouais, c'est normal comme tout.
Ouais. Ouais, malheureusement, c'est malheureusement normal.
Et ouais, c'est normal à partir du moment où tout est organisé pour que ça s'effondre, c'est normal.
Allez, on continue avec Manu.
Après volonté ou pas, ce qui est clair, c'est ce qu'on disait au début, c'est-à-dire qu'il y a une absence totale mais de l'ensemble de la classe politique sur l'intervention et, l'intérêt, hein, ne serait-ce que l'intérêt pour la vie de gens qui vivent dans des logements insalubres. C'est ça le fond de l'histoire. Hein. Bon. Et donc, Julien Ruas fait partie de cette équipe-là et donc se désintéresse de ces sujets-là pour s'intéresser à des choses beaucoup plus futiles et en particulier, bon, pour ce qui le concerne, c'est les marins-pompiers. Bon, voilà. Donc, on n'utilise pas cette enveloppe. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cet outil-là aurait permis sur le 63, sur le 65 et sur d'autres immeubles d'intervenir sur du diagnostic en amont et de faire réaliser des travaux, parce qu'on avait de toute façon depuis déjà des dizaines d'années déjà un peu de connaissance de la fragilité de cet immeuble. On aurait pu intervenir pour réaliser des travaux et on avait tout pour faire. On avait un bureau d'études, on avait des marchés de travaux, on avait un service qui aurait pu simplement envoyer un bon de commande au bureau d'études pour faire faire, et on n'a pas fait. Donc ça, c'est bon, c'est catastrophique, c'est ça qui est dramatique, c'est qu'on voit qu'en fait, il y a... Et c'est ce qu'a... Il y a Claude Bertrand, donc, qui était directeur de cabinet de Jean-Claude Gaudin, qui a résumé les choses de façon assez intéressante. Quand on lui demande si Julien Ruas était compétent ou pas sur ces sujets-là, il dit, mais en fait, nous, on préfère avoir quelqu'un d'incompétent parce qu'en fait, un adjoint n'a pas à se substituer au directeur général des services, ne doit pas être technicien. Et ça, c'est assez criant. Et ça dit, en fait, toute l'organisation de l'incompétence au sein de la ville de Marseille. C'est-à-dire qu'il y avait une complicité entre la classe politique et puis un syndicat majoritaire, qui était Force ouvrière, hein, pour ne pas le nommer, qui organisait cette incompétence avec des techniciens qui étaient, alors, pour le coup, protégés, mais dociles et qui n'en foutaient pas une. Et qui étaient aux ordres des politiques, et donc qui faisaient ce qu'on leur demandait de faire et pas les missions pour lesquelles ils étaient censés intervenir. Quoi. Donc ça, c'est un vrai problème systémique de l'ancienne majorité municipale, qui aussi est à prendre en compte dans la compréhension du pourquoi on en est là aujourd'hui. Il y avait vraiment une organisation de l'incompétence. Quoi.
Mais... Donc, on est là. En fait, le vrai problème, il est vraiment là, je crois.
Voilà, là, on touche un petit peu au fond du problème. C'est-à-dire que c'est pas juste une personne incompétente. C'est un système de l'incompétence où on préfère l'incompétence pour pouvoir contrôler, faire fonctionner comme on l'a bien envie, avec nos propres intérêts, le système.
Parce qu'il y a deux choses comme ça. Donc, les fonctionnaires territoriaux, hein, en principe, ont une mission. Alors, ils sont sous la gouverne temporaire des élus, mais ils ont aussi des missions qui leur sont attribuées et qui sont intrinsèques à leur fonction, qui n'ont pas à être à changer selon le sens du vent, etc. Ça, c'est aussi le. Mais peut-être qu'on s'est installé dans une espèce de. Enfin, tu vois, il a fait combien de mandats, Jean-Claude?
De conflits d'intérêts où on ne sait plus trop si c'est l'intérêt du parti, l'intérêt de Jean-Claude Gaudin, l'intérêt de la mairie, l'intérêt des Marseillais. Ouais. Tout se confond un petit peu. Le technique, l'analyse technique, l'expertise et l'intérêt politique.
Bah, tout se confond, mais en tout cas, c'est, ça, le résultat, il était dans un sens et pas dans l'autre.
Ça oui, il se confond. Oui, il se confond dans un seul sens, bien sûr.
pas dans celui du citoyen, la preuve. Hein, on n'en serait pas là, comme on dirait l'autre. J'ai bien aimé cette semaine aussi, c'est je ne sais plus qui a dit oh, si j'avais su. Et là, tu dis.
Très provenu.
Non, si j'avais su. Mais mec. C'est, tu sais, je crois que c'est Carter encore. Hein. C'est encore Carter qui, qui tient le haut du pavé quand même au niveau des. Et de, c'est lui qui avait réintégré les habitants du 65, qui avait dit non, en fait, si finalement tout va bien, vous pouvez retourner à l'intérieur. Hein, et dit si j'avais su, mais vain Dieu, c'est toi qui étais censé savoir à la place de tous ceux qui éventuellement pouvaient être dans l'approximation, toi expert.
Mais non, justement, lui, il avait toutes les qualités de l'incompétence.
Alors que c'est lui qui travaille le plus au niveau de la ville de Marseille. Mais il y a aussi la responsabilité de Marseille Habitat.
Ouais, là, il y a eu donc les.
Qu'on a la personne morale, mais on a fait absolument rare une accusation nommée. Du directeur, monsieur Gilles.
Voilà, alors donc là, d'après Primitivi, hein, donc Marseille Habitat, donc propriétaire du 63, hein, il y a 200 000 euros. Affichage dans deux quotidiens, outre les contraventions, tu expliqueras peut-être si tu as plus de détails dessus.
Et Gilles, ils doivent afficher leur condamnation, publiquement.
Et Gilles, responsable pour Marseille Habitat, donc lui, 5 ans, 3 000 euros. Interdiction définitive de gérer des biens à destination d'hébergement. Bon, je ne sais pas s'il y a des biens à destination d'autre chose, ça serait mieux, mais en tout cas, voilà pour le côté mairie, Marseille Habitat.
Ça, c'est la réquisition.
Voilà.
Ça, c'est la
réquisition. Mais il s'ajoute à ça, et ça, on le suit à la fin du réquisitoire, et ça, c'est génial, c'est que les avocats demandent, de la partie civile, demandent que tous les frais juridiques encourus pendant le procès, avant, pour les enquêtes, etc., soient réglés par les deux entreprises morales, qui sont mises en accusation, donc Marseille Habitat et le syndic Lyotard. Et donc ça, la note va être probablement assez salée parce que le minimum, c'est 400 000 euros. Mais le procureur a bien expliqué que ce n'était qu'un minimum, qu'ils allaient maintenant commencer à faire les comptes. Et on peut penser que le cabinet Lyotard n'existera plus très bientôt. Et que Marseille Habitat va se retrouver, évidemment, avec une facture absolue et bien méritée.
Malheureusement, Marseille Habitat, d'où est-ce qu'il tire ses ressources?
Oui,
un, des loyers, deux, des subventions d'argent public qu'il reçoit. Donc, encore une fois...
Ah bah oui, les 200 000 euros de Marseille Habitat, c'est pas Gaudin qui va les payer, c'est sûr.
Ah bah, lui, non.
Alors, Marseille Habitat, selon...
Mais bon, pour Lyotard, par contre, ça risque d'être différent. Bon, après, j'ai regardé sur société.com, là, depuis 2017, ils étaient à 1 million d'euros de chiffre, sont passés à 400 000. Donc, est-ce qu'ils sortent l'argent pour le mettre ailleurs, ou est-ce que...
Va savoir.
Alors, qu'est-ce qu'ils ont eu, Lyotard, d'ailleurs? On reste sur Marseille Habitat.
Lyotard, peut-être. Ok, on parle pas de Marseille Habitat, si, un peu, vas-y. Qui a été, évidemment, accusé d'avoir fait absolument aucun entretien, aucune surveillance des structures au 63, avoir voulu évidemment faire passer l'effondrement sur le dos du 65, alors que le mur mitoyen du 63 et 65 était humide et qu'il a été prouvé que l'effondrement à plat a été simultané. Des deux immeubles. Donc,
c'est un petit peu ce qu'on racontait un peu la dernière fois, c'est-à-dire qu'essayer de ce que Théo a raconté de lignes de natation, là, de nageurs, de séparer le truc, d'essayer de savoir est-ce que c'est le 65 ou le 63 qui a eu la première pierre qui est tombée, ça répond pas au vrai problème, c'est-à-dire à la vraie responsabilité, et le 63 est tout aussi responsable que le 65.
Compte tenu que dès décembre 2007, 2007. Le Soo-63 est mis en péril. On a bien un directeur technique qui est sous les ordres de M. Gilles, M. Coulanges, qui a été relaxé, car la procuration, le réquisitoire a quand même été bien clair. C'est le directeur général, M. Gilles, qui doit être mis en accusation parce qu'il... si vous voulez, il y a eu un attentisme de la part de Marseille Habitat entre 2007 et 2018 absolu. Il y avait un contentieux entre les trois immeubles déjà au départ et tout le monde attendait que les procédures civiles se terminent, ces procédures civiles, pour savoir qui allait payer la facture, en fait, entre les trois immeubles qui étaient visés par des rapports, des alertes et des mises en péril. Et donc, Marseille Habitat est tout aussi coupable, et M. Gilles étant responsable de toutes les enquêtes, responsable de la connaissance des faits, n'ayant absolument rien fait, il y a eu un gel de 10 ans, avant que la démolition qui avait été préconisée en 2007 soit peut-être observée. Donc, ça a été combien serait le coût de la démolition. Il y a eu tout un démêlé là-dessus. Alors, évidemment, cet attentisme a mené malheureusement à la mort de nos concitoyens et de nos amis on peut parler, comme dit Monsieur Patrice, Emmanuel Patrice, de mépris complet pour les gens qui vivaient dans ces immeubles qui étaient notifiés comme étant dangereux, voire même très dangereux, à la fin de, en 2017. Voilà. Donc, Marseille Habitat, Monsieur Gilles, qui est très connu d'ailleurs dans la ville de Marseille pour ses services.
Rendu.
Oui, va enfin peut-être aller faire un tour en prison. Voilà, ça c'est pour Marseille Habitat.
Alors ça c'est, tu sais, comme on disait, là c'est le première instance.
Oui.
Il y aura très 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 probablement des appels, oui, voire même des cassations.
Je rappelle que le président du tribunal, M. Gain, est celui qui a envoyé le fameux policier, là, vous savez, qui avait organisé tout un système marchand de sommeil... je ne sais plus combien on m'a dit, une centaine de logements insalubres. C'est lui qui l'a fait, qui l'a stoppé. Et ce monsieur est derrière les barreaux maintenant. Donc là, ils ne sont pas avec des gens qui vont, je crois, laisser aller, ça c'est une supposition, toutes les formes d'appel et de mise en attente de l'exécution des sentences. Je ne crois pas.
Bon, après, bon, voilà, la prison, c'est un autre débat.
Oui, c'est un autre débat. Oui. Mais là, on n'est pas dans ce débat-là. Là, on est dans le débat de la réparation.
Je ne sais pas si on n'est pas dans ce débat-là quand même, parce que le problème principal, c'est l'organisation, la structure de la société, comment elle fonctionne, et qui crée ces bouleversements. Ces problèmes, c'est là est tout ce qui va être la tentative de vouloir concentrer sur quelques personnes, donc sur des condamnations et sur de la prison, c'est pour éviter de parler du gros problème, c'est-à-dire du problème structurel, du problème que les mairies de toute façon s'organisent comme ça, que les systèmes s'organisent comme ça.
Pas toutes les villes, Stéphane.
Ah ben je pense que toutes les villes, oui, s'organisent comme ça. Mais après, ça, voilà, c'est pas le sujet là.
Il n'y a pas des incuries comme ça. Il n'y a pas de l'incurie autant. Marseille est quand même un exemple. Je pense en tête de toutes les villes pour un système.
Oui, il y a toujours pire. Il y a toujours mieux. Mais bon, c'est pas le sujet. Allez, là.
Voilà. Non, voilà. À force de généraliser, on finit forcément par dire des conneries.
Cabinet Lyotard, tu voulais y aller.
Est-ce que vous voulez qu'on continue avec ce que dit Manu, parce qu'en fait, oui. Il dit...
Sur Lyotard ou...
Non, il dit en général, il dit juste on continue l'interview.
On parle de toute façon, Emmanuel rétablit bien cette fonction, enfin cette base politique du procès.
Voilà, à la fin, puis on demande aussi de quel avenir, quelle vision sur l'avenir aussi, j'aime bien aussi ses réponses là-dessus.
Alors, tout ça est le résultat de beaucoup
d'une somme d'incompétences, mais qui, elles-mêmes, sont peut-être un peu organisées.
Ah ben, quand je parle d'organisation de l'incompétence, voilà. C'est bien ça. Oui, c'est ça.
Ouais. Parce qu'en fait, les mauvaises langues disent « oui, mais de toute façon, c'était un peu voulu qu'on en arrive là ». Et donc, en fait, ce qui transparaît, c'est que, alors, on ne l'a pas délibérément voulu, et pourtant, si, un peu.
Ben oui, c'est-à-dire qu'il y a ce que nous, on parle, c'est qu'il y a, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a un mépris de classe, réellement, sur la question du mal-logement. C'est-à-dire qu'on en a strictement rien à foutre. C'est pas quelque chose qui touche la classe politique qui n'a jamais, probablement, enfin la plupart des élus n'ont pas connu ces situations-là eux-mêmes, donc ils sont pas touchés par ça. Et puis il y a une idéologie derrière qui est celle d'une ville fantasmée, aseptisée, qui correspond à une certaine idée d'une classe politique dans l'entre-soi et qui se fout complètement en fait des gens qui vivent dans des conditions dégueulasses, quoi. Ouais, il y a vraiment
ça. Moi, j'ai une question là-dessus justement, parce que c'est le mépris de classe est patent, mais même par rapport au. Je m'excuse, mais les témoignages des copropriétaires hier étaient assez, on parle même pas de déception, mais le mépris transparaît dans leur façon de s'exprimer au sujet des travaux qui n'ont jamais été faits, des devis qui n'ont pas été discutés, bref. Et une indifférence, au moins. Est-ce que, moi ma question c'est comment faire pour, est-ce que la responsabilité de la ville pourrait être diluée dans une somme de responsabilités plus ou moins vagues, le mépris de classe en étant une parmi d'autres. Hein, comment faire pour éviter cette dilution de la responsabilité, selon toi, parce que c'est question un peu politique.
Ben, c'est toute la question en fait, du procès. Quoi. Alors effectivement, il y a même plus que de la désinvolture ou du désintérêt de propriétaire. Il y a aussi quand même des logiques derrière de rente. Et on l'a vu très clairement avec l'un des prévenus, Xavier Cachard, qui était à la fois donc avocat du syndic Lyotard, qui était donc sur l'immeuble du 65 rue d'Aubagne, qui était en même temps élu à la région et qui était propriétaire d'un des appartements. Et on a vu toute la stratégie à travers son audition de stratégie de rente et c'est sûr que la rentabilité quand on fait pas des travaux on sait très bien que les marchands de sommeil ils ont une rente énorme parce que voilà c'est très rentable de mettre des gens sans payer dans des taudis et de les faire payer très cher sans faire des travaux donc il y a au-delà d'un laisser-aller qu'on peut entendre sur certains propriétaires, parce qu'il y a un peu tous les degrés hein, de propriétaires, il n'y a pas que des vrais marchands de sommeil, mais il y a aussi des stratégies de rente et de spéculation qui sont aussi issues d'un modèle de société. Hein, qu'il faut, voilà. Bon. Après, la question que tu poses, elle est essentielle, c'est comment arriver à pas diluer toutes les responsabilités dans des questions d'ordre technique, des questions d'ordre gestionnaire, de syndic, bon, des questions, il y a aussi Marseille Habitat qui est en partie défaillant et c'est ce qui va être démontré on l'espère aussi sur la gestion de son immeuble au 63 rue d'Aubagne. Bon. Donc il y a une chaîne de dysfonctionnement et c'est ce qui est intéressant aussi malgré tout dans ce procès, c'est qu'il y a toute la chaîne en fait des acteurs du logement et actrices qui sont présents et on voit qu'il y a un dysfonctionnement un peu de partout. Maintenant la question qui nous et en particulier à Centre-Ville pour tous, ce qu'on veut essayer de porter, c'est que ce mal-logement, il est systémique et que ce doit être aussi le procès, et c'est ce qu'on en attend en termes de jugement, le procès aussi de la question du mal-logement et de ce mépris de classe et de ce désintérêt de classe. Et ça, c'est vrai qu'on va essayer de le porter encore, nous, ces jours-ci. Il y a les réquisitions qui arrivent mercredi prochain. On va certainement publier une tribune la veille pour dire ça aussi. Oui, il y a des manquements. Oui, il y a des logiques de copropriétaires rentiers spéculatives. Il y a des logiques... Il y a des manquements énormes d'experts qui ont mal fait leur boulot. Mais il faut quand même remonter tout ça à une question beaucoup plus politique, beaucoup plus systémique. Et c'est très important aussi que ce procès parle de ça. Et ce qui est un peu regrettable aussi, mais ce qu'on peut aussi comprendre, hein, c'est que sur l'aspect politique, il n'y a qu'un prévenu, c'est Julien Ruas, qui est à la sécurité des immeubles, donc sur une dimension un peu technique. Et il n'y a pas l'adjointe au logement de l'époque, Arlette Fructus. Il n'y a pas Jean-Claude Gaudin, bon, qui n'est plus là. Il n'y a pas son directeur de cabinet, Claude Bertrand. Et tous ces gens-là ont participé, en fait, de cette situation et de d'où on en est arrivé avec ce drame.
Voilà, ça c'était une petite pause. Et on reprend, vous voulez qu'on continue avec
sur la production de logements sociaux. On se bat, nous... quelque était la tendance politique sur cette question-là, et on voit bien qu'aujourd'hui, ni à la ville de Marseille et encore moins à la métropole et au niveau de l'État, la question de la production d'un logement qui soit digne et qui soit abordable, elle est absolument pas, elle est très très peu abordée. Des budgets qui ont été annoncés, on en a eu une flopée après les effondrements. On nous a dit le 13 décembre 2018, donc un mois et quelques jours après les effondrements de la rue d'Aubagne, on nous annonce 850 millions d'euros dans une délibération métropolitaine avec la rénovation de 10 000 logements en 10 ans. Bon, aujourd'hui, ces 850 millions d'euros, on ne sait pas où ils sont. Les 10 000 logements, y en a 4 qui ont démarré à la rue Jean-Roch, là.
Voilà, c'est...
Bravo, 4, voilà. C'est pas 4 mal.
4 sur 10 000.
Voilà, c'est un bon début. 0,4%.
4 sur 10 000.
Alors,
voilà. C'est pour dire qu'on a aujourd'hui, on a tout chargé.
0,4%.
Bon, oui, ça c'est la question. Hein. Est-ce que ce procès, assez exemplaire, je trouve, va déboucher sur de nouveaux comportements politiques? Est-ce qu'un système va, tel que celui-là, qui date de Guy Defer, qui est vraiment ancré solidement dans les entrailles de cette ville...
Non, il ne s'appelle pas Guy Defer.
Non, mais qui date, c'est un vieux système, hein.
De faire. Ça s'appelait pas Guy.
Ça s'appelait pas Guy. Gaston, pardon.
Gaston.
Et moi, j'étais pas là, j'étais pas né à ce moment-là. Et bon, bref. Donc, c'est vraiment un procès politique, mais c'est à nous d'en faire un procès politique aussi. Hein, parce que tout ne peut pas être dit par des procureurs de la République. Et c'est aux gens, aux citoyens, aux associations.
J'aime beaucoup ton optimisme de penser que, du coup, une fois qu'on aura rasé 3 têtes, ça va faire que le système va être absolument parfait.
Non, mais il y aura d'autres enquêtes. Hein, c'est pas fini pour leurs fesses, hein, je t'explique.
Après, moi j'ai l'impression que... Allez. Alors, ceux-là vont peut-être... Alors, je dis peut-être, je croise les doigts. parce que la justice, comme on dit, les procédures ne sont pas finies. Parce que des fois, peut-être que dans 15 ans... Parce que des fois, c'est le temps que ça prend. Hein. Enfin, regarde là, ça a pris 4 ans pour arriver à la première. En appel, et puis en cassation, et patin coup fin.
On verra. Là,
on verra.
Bah, là, peut-être qu'on peut se reconcentrer sur Lyotard et Cachard.
Allons-y, parce que...
Les proprios ont eu plusieurs peines. On va peut-être pas là, s'étendre dessus, parce que c'est peut-être moins intéressant à commenter.
Quand même, Madame Collier, c'est pas mal. Bon, ouais. Vas-y.
Donc on va s'arrêter sur, déjà peut-être sur Lyotard, là, donc qui ont eu donc je crois 100 000 euros. Mmh. Interdiction d'activité de syndic gestionnaire de syndic Valentin, gestionnaire 127 copro pour la SRL Lyotard, 5 ans. Interdiction définitive de gérer des biens.
Monsieur Valentin.
Voilà, Monsieur Valentin, c'est ça, d'accord.
C'était le gestionnaire. Ouais.
Voilà, donc ça c'est pour Lyotard. Et pour, on verra peut-être aussi Cachard, voilà, qui était propriétaire, mais aussi proprio, mais aussi avocat de Lyotard. C'est lui qui avait fait des petits mails pour dire non, mais si vous pouvez retarder les travaux, c'est super.
Voilà, lui il résume dans l'ensemble du système toutes les tares, quoi.
Et ouais, il cumule un peu. Donc lui, ce qui est requis, c'est 5 ans, dont 2 avec sursis, 150 000 euros, interdiction définitive de gérer des biens à destination d'hébergement. Voilà, et donc là, pour compléter le truc, là, effectivement, le paiement de tous les frais de justice par les personnes morales serait de 480 000 euros à peu près.
Alors, voilà. Juste un mot bon, pour le cabinet Lyotard, je crois que la Marseille va enfin s'en débarrasser, mais enfin, on verra. En 2017, M. Valentin, qui était de mèche avec tout le monde, les propriétaires, et donc M. Cachard, disposait d'un historique du 65, mais n'a rien fait. Gestionnaire de 127 copros, il n'avait pas le temps. A-t-il déclaré.
Il faut rappeler, ouais, Cachard, donc il a acheté...
Monsieur Valentin, mais Cachard a acheté aussi son...
Alors, moi j'aime bien tous ces gens qui ont acheté, qui n'avaient pas le temps, mais en principe, non, plus tu as...
Valentin, c'est le syndic.
Hein, oui, le syndic, justement.
Ouais. Non, mais Cachard, il a acheté le logement,
un logement,
32 000
oui.
euros,
oui.
qui louait 400 euros sans jamais avoir visité le logement qu'il avait acheté.
C'était ouais. assez fantastique. Fait
il faisait une confiance aveugle au vendeur. Peut-être.
Oui. Il faisait une confiance aveugle au locataire qui payait son loyer. Surtout.
Oui, voilà. Et comme les autres qui ont été cités, hein, parce qu'il y a des propriétaires, il faut le dire, qui ne sont pas cités, parce que dès qu'il y a eu des alertes, certains des propriétaires du 65 se sont inquiétés
se sont mobilisés. De
la, et mobilisés pour la sécurité des gens qui y vivaient et ont rencontré le bloc des cités, donc M. Cachard. Madame Collier, Madame Bonnetto et son mari.
Devant le micro, Isabelle.
Et Hardy. Enfin, bon, on en a cinq là qui sont cités et qui ont tout fait, mais tout fait pour retarder les travaux qui étaient recommandés par plusieurs rapports, les travaux en profondeur et un devis dont on a parlé la semaine dernière de l'entreprise Betex qui disait que le montant était de 185 000 euros à peu près pour vraiment remettre les choses en ordre.
Alors, ce qui est rigolo dans l'histoire, si je comprends bien, c'est que finalement, un des élus qui aurait pu avoir vent, quand même, de cette enveloppe de 6,5 millions.
Non, et de 6,5 millions.
Pour faire ses travaux, eh ben, n'a même pas eu la présence d'esprit d'activer ce fonds-là pour le bâti pour lequel il était concerné.
Mais le fonds était là, disparu à ce moment-là. Hein. C'est un fonds qui date... De 2000, je me souviens plus quoi, bah, 7...
De 2014.
14, voilà, pour l'ensemble des logements indignes.
Oui,
non,
mais d'accord, oui. Mais en tout cas, il aurait pu... Enfin, si 300 000 sur 6,5 millions ont été activés...
Bah, de toute façon, ils auraient pu bloquer, donc ils auraient pu. Oui. Donc il y a même pas une question de
non,
budget.
Non, en fait, l'idée est là.
Bien sûr qu'en plus,
on en revient à la question politique ou du système.
Non, mais il pouvait même pas dire je savais pas, parce que dans l'absolu, il aurait pu savoir.
Ah oui, c'est sûr.
Il aurait pu savoir, mais il dira toujours qu'il l'a pas su et que c'était la faute de Ruas, qui dit que c'est la faute de Carta, ils disent tous que ils se renvoient la balle. Mais le truc, c'est que et là, le procureur l'a dit. Le syndic Lyotard n'avait Dieu que pour les propriétaires. Et c'est ça qu'il faut comprendre dans ces systèmes. C'est qu'en fait, les locataires ne sont que la part minimum de la stratégie de tout ce marché en fait, immobilier.
Ah oui, ils comptent un petit peu parce que c'est eux qui payent le loyer. Parce qu'on les fait chier s'ils ne payent pas le loyer quand même. On les fait chier immédiatement. Si pendant un mois, deux mois, ils ont du retard, les emmerde.
Oui, mais l'idée, c'est de retarder les frais des gros travaux.
Oui, mais ils comptent quand même. C'est ça qui nourrit quand même les gros poissons.
Oui, mais donc le syndic qui est supposé de s'occuper de la sécurité des locataires et non pas du portefeuille des propriétaires, là, ils ont été mis en accusation directement. Et là, c'est une accusation aussi du système qui est établi partout. En fait, ce système de syndic, c'est dans toute la France.
Juste, je vais raconter une histoire. Moi, dans mon vécu perso, un jour, j'ai fini par tomber sur mon proprio et je lui ai raconté toutes les misères que me faisait l'agence de recouvrement, l'intermédiaire entre lui et moi.
Oui.
Et quand il a appris tout ça, quand il a appris qu'en fait, c'est que, tu vois, par exemple, c'est moi, tu sais, quand tu ne payes pas ton loyer en temps et en heure, on m'appliquait des pénalités de retard, donc ce qui n'était pas négligeable. Et comme je n'étais pas d'accord avec les pénalités de retard, je ne payais que mon loyer. Donc à la fin, en fait, eux, ils ne prélevaient d'office les pénalités de retard et estimait que je n'avais pas payé mon loyer d'après. Donc ils m'ont rajouté des pénalités de retard. Enfin bon, ça jouait à ça. Et quand je lui ai montré donc mes paiements et enfin hein,
alors oui,
il s'est rendu compte qu'en fait
les sociétés de gestion font le, c'est leur rôle un peu de faire un peu une boîte noire pour le propriétaire, mais peu pratique pour le propriétaire d'avoir une boîte noire aussi.
Quand le proprio a appris, quand il s'est rendu compte de moi ce que je payais pour mon logement et ce que lui recevait, il a changé. Il a dit non mais c'est n'importe quoi. Déjà il m'a enlevé toutes mes. Oui d'accord, il y en a qui sont normaux, qui sont humains, tout ça. Il n'y a pas que des sales méchants.
Oui mais comme par hasard c'est après qu'ils s'en rendent compte quoi. Moi aussi j'ai eu le même cas. Je pense que tout le monde a eu le même cas où d'un coup le propriétaire se réveillait parce que au bout d'un moment on arrête de payer le loyer, qu'on finit par en avoir marre et que du coup il commence à se dire mais pourquoi il arrête de payer le loyer, pourquoi il est pas content, mais pourquoi ça marche pas, parce que l'agence m'a pas dit qu'en fait ils étaient pas content que le service n'était pas bien rendu, et là il se réveille. Oui, mais d'accord. Mais ça l'a bien arrangé, et c'est pour ça qu'il a pris d'ailleurs une agence pour gérer ses biens immobiliers, c'est bien pour ne garder que son investissement, c'est-à-dire faire un investissement de départ et récolter le loyer qu'il exige tous les mois quand même.
Mais quand même, d'ailleurs, juste un petit mot sur les propriétaires là qui ont été cités. Il y en a deux, dont Madame Collier qui était quand même professeur des universités et dont la locataire était une étudiante, elle le savait, cette jeune femme était précaire, avait l'air toute contrite dans son témoignage devant le tribunal, mais en fait des mails sont remontés à la surface, tout comme pour monsieur et madame Bonetto, de mépris ou de menaces. Les travaux ne seront pas faits, mais si vous n'êtes pas content, les petits locataires, vous pouvez vous en aller ailleurs. Il y a d'autres personnes qui prendront votre place très rapidement. Donc, le syndic Lyotard, et je reviens à M. Valentin, qui a été formellement accusé d'avoir essayé de convertir ou de ramollir les rapports et les alertes, dont celle de Betex, au profit des propriétaires et non au regard de la sécurité des locataires qui étaient là. Des propriétaires, donc les cités, hein, ceux qui sont accusés à l'heure actuelle, les propriétaires qui faisaient pression sur leurs locataires. Donc là, on est encore dans un système, et c'est encore une fois un système économique et extrêmement vorace, néolibéral en fait. Hein, on va le dire.
Oui,
c'est quand même le cœur du problème.
Mais oui, le cœur du problème, il est là. Ouais. Et ça a été bien dit pendant le procès, Stéphane, ça. Bon. Donc voilà.
Donc, encore une fois, la main invisible du marché
devait s'occuper de tout. Y compris des trous dans le plancher,
etc.
Des alertes d'effondrement.
Encore une fois, donc on souligne la faillite de la main invisible du marché, enfin toute cette théorie fumeuse fut...
Enfin faillite, elle est toujours là quoi. Hein.
Oui.
Je ne sais pas si on a le temps, peut-être pas, de parler de Louis Mangione.
Oui, allez, deux secondes, vite.
Alors, je ne sais pas si... Ouais, on peut parler rapidement.
Luigi Mangione.
Luigi Mangione. Qui donc a tué le président de...
Le directeur.
Le directeur général du
système de santé.
Healthcare, enfin la grosse boîte de santé mutuelle, américaine. De mutuelle américaine. Donc apparemment il y avait des problèmes, il avait un historique avec, etc. Mais en gros il le bute et il fait une petite déclaration pour, parce que ça rejoint le problème des promoteurs, c'est-à-dire qu'à un moment donné il y a ces sociétés-là qui sont intermédiaires, elles en profitent, elles essaient de gratter, par exemple, alors ça peut être pour les loyers, pour les promoteurs, mais ça peut, ou les agences de location, mais ça peut être aussi là pour les entreprises de santé, essayer de ralentir un remboursement. C'est demander des papiers avant de valider un remboursement. Je crois que ça se passe beaucoup, par exemple, aux États-Unis, c'était une des raisons pour lesquelles il était énervé. On peut même, je ne sais pas si on a le temps peut-être là, d'écouter ce qu'il a laissé comme texte. Ça prend 2-3 minutes, je pense. Allez, on l'écoute, alors, peut-être
vite fait, parce qu'on a...
C'est ce qu'on a appelé le manifesto, mais ce n'est pas vraiment un manifeste, ça c'est court.
On a 4 minutes.
Il y a 2-3 minutes, là, pour l'écouter.
Disons que c'est comme un exemple, dans un autre domaine, de ce qu'on vient de voir au sujet de ce procès. Allez.
C'est ça, les surprofits sur les gens. Donc, je ne sais pas si tu as le...
Envoie.
Aux fédéraux, je vais faire court, parce que je respecte ce que vous faites pour notre pays. Pour vous épargner une enquête longue, je déclare clairement que je ne travaillais avec personne. Cela était assez trivial. Un peu de social engineering élémentaire, des bases en CAO en conception assistée par ordinateur, et beaucoup de patience. Le carnet spiralé, s'il est présent, contient quelques notes en vrac et des listes de tâches qui éclairent l'essentiel. Mon matériel technologique est plutôt sécurisé parce que je travaille dans l'ingénierie, donc il ne devrait pas y avoir beaucoup d'informations là-bas. Je m'excuse pour tout conflit ou traumatisme causé, mais c'était nécessaire. Franchement, ces parasites l'avaient simplement mérité. Un rappel, les États-Unis ont le système de santé le plus cher au monde, mais nous nous classons environ 42 en espérance de vie. United est l'une des plus grandes entreprises des États-Unis en termes de capitalisation boursière, juste derrière Apple, Google et Walmart. Elle n'a cessé de croître, mais notre espérance de vie ? Non. La réalité est que ces sont devenus tout simplement trop puissants, et ils continuent à exploiter notre pays pour un profit immense. Parce que le public américain leur a permis de s'en tirer. Évidemment, le problème est plus complexe, mais je n'ai pas la place pour en parler pleinement, et franchement. Je ne prétends pas être la personne la plus qualifiée pour exposer l'argument en détail. Mais beaucoup ont mis en lumière la corruption et la cupidité, par exemple, Rosenthal et Moore, il y a des décennies, et les problèmes demeurent simplement. Ce n'est plus une question de sensibilisation à ce stade, mais clairement des jeux de pouvoir en cours. Manifestement, je suis le premier à affronter cela avec une honnêteté aussi brutale.
Voilà, donc je pense que ça résume...
Voilà, oui, ça peut s'appliquer à l'ensemble de ce système pourri, corrompu à l'os. C'est alors ça. On fait quoi maintenant? On passe une chanson?
Ouais, on passe une chanson et on vous dit au revoir. Allez.
On boit un coup.
Allez, une chanson un peu pour...
Allez. Il y a eu justice quand même.
Oh mais dis-leur que l'on s'aime, dis-leur que ça nous fait du bien. En quoi cela serait-il un problème? Nous nous tenons par la main. Oh mais dis-leur que l'on s'aime, dis-leur que ça nous fait du bien. Non, nous ne sommes pas un problème, nous sommes le monde de demain. Dis-leur que c'est ainsi que naissent les colombes, dis-leur que c'est ici que commence le nouveau monde.